France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Tous les soirs à 21h, France Culture vous propose des émissions pour réfléchir aux enjeux de société. Et le lundi, nous parlons d'éducation avec Être et Savoir. Et c'est le deuxième volet de nos trois numéros consacrés à la rentrée scolaire pour éclairer cette actualité et vous donner matière à penser le moment. C'est demain et c'est sans doute la rentrée dont on aura le plus parlé en amont. Elle effraie, elle mobilise. Son organisation est source de conflits entre les syndicats enseignants et le ministère de l'Éducation nationale. Un sondage BVA publié par La Croix ce matin indique que 71% des parents s'en inquiètent et 83% d'entre eux redoutent un nouveau confinement. Alors, l'école est-elle prête? Nous en débattrons avec Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, j'ai pris mon souffle, et la syndicaliste Valérie Sipahi-Malani, professeure en lycée à Paris et secrétaire générale adjointe du SNES FSU. C'est le premier syndicat du secondaire. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais les enjeux de l'éducation n'ont pas pour autant disparu et derrière la crise liée au Covid s'en joue une autre, déjà ancienne, celle des inégalités scolaires et même du contrat social qui lie les Français à leur école. Une crise qui est aussi celle de nos démocraties car les perdants de la course au diplôme deviendraient de plus en plus méfiants, voire défiants envers les institutions ou ceux qu'on appelle les élites. On peut prendre des exemples dans l'actualité proche avec le rejet des masques, des protocoles pour endiguer l'épidémie ou encore celui de la vaccination. Vous en parlez dans votre livre, Marie Durubella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeure émérite à Sciences Po, chercheuse à l'IREDU, c'est l'Institut de Recherche en Éducation de l'Université de Bourgogne. Et vous avez écrit, avec François Dubé, co-écrit, un livre, « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» un livre important qui paraît au seuil. Cette semaine, Philippe Mérieux est également au téléphone avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en pédagogie, spécialiste de l'éducation. Ce que peut encore l'école pour la démocratie. Tiens, ce sont deux titres qui se ressemblent. Vient de paraître également chez Autrement. C'est également un livre important. Il est assez personnel, mais on y reviendra. Et je vous invite évidemment tous les deux à intervenir dans la première partie de cette émission. Et on commence avec cette rentrée très spéciale, assez conflictuelle, c'est du moins le constat que je fais. Édouard Geffray, cette phrase de Jean-Michel Blanquer était à la une du JDD. Nous sommes préparés à tout. C'était hier, ça doit être encore le cas aujourd'hui. Pourtant, on le voit dans les prises de parole des enseignants et on va le développer avec Valérie Sipahi-Malani. On voit que on ne vous croit pas beaucoup dans les rangs des professionnels de l'éducation.
Alors écoutez, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je ne crois pas que cette rentrée elle soit conflictuelle. En tout cas, moi, j'ai pas la même perception. On est tous réunis autour de l'école. Je crois que c'est quand même un dénominateur commun important de notre République. C'est probablement une des choses qui sera dite tout à l'heure. Et donc, je ne vois pas de raison de conflictualité particulière autour de la rentrée. En revanche, il y a une rentrée qui est elle-même particulière à cause du Covid, évidemment. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire face aux différentes éventualités? C'est-à-dire à la fermeture d'une classe ou d'une école, ou éventuellement des contraintes sanitaires plus strictes qui aboutiraient à faire, par exemple, des rotations de groupes d'élèves, ce genre de choses. Et par rapport à ça, oui, effectivement, on est prêt. Il y a eu un travail qui a été fait pendant plusieurs mois avec des acteurs de terrain, qui a fait l'objet d'ailleurs d'échanges aussi avec les organisations syndicales, et qui a abouti au début de l'été à ce qu'on appelle un plan de continuité pédagogique, c'est-à-dire que si jamais une école se retrouve en situation de devoir fermer une classe ou de devoir être fermée, on est capable d'embrayer, tout simplement, du jour au lendemain, sur d'autres modes d'organisation, soit hybrides, soit entièrement à distance. Et tous les outils, effectivement, sont là pour ça, ils sont tous prêts.
Hybride, c'est classe par demi-groupe et enseignement à distance pour une partie des élèves.
Exactement.
Vous dites, si on doit confiner quelques élèves, une partie des élèves, oui, peut-être, mais c'est à partir de combien de cas dans la classe, dans l'école, à partir de combien d'adultes, est-ce qu'on a des informations précises sur ce point?
Alors, il n'y a pas de seuil mécanique notamment parce que d'ailleurs les classes font pas toutes le même nombre d'élèves. En revanche, il y a un protocole de traçage qui a été élaboré, qui est très strict. Et pour faire simple, hein, quand vous avez un cas suspect ou confirmé, on établit la liste de ces cas contacts. Ces cas contacts sont testés et en fonction des résultats de ces tests, les autorités sanitaires, parce que ça relève des autorités sanitaires, décideront de la marche à suivre en termes de fermeture de classe ou pas. Mais donc, il n'y a pas un espèce d'effet de seuil mécanique en disant quand il y en a un, quand il y en a deux, quand il y en a trois, tout mécaniquement on ferme. C'est les autorités sanitaires qui tiennent compte de l'ensemble de la situation pour prendre une décision.
Valérie Sipahi-Malani, votre syndicat parle d'impréparation. Oui. Quand vous écoutez Édouard Geffray, vous entendez-vous de l'impréparation ?
Moi, j'entends que la rue de Grenelle est prête. Mais j'entends que la rue de Grenelle, elle part toute seule. Et puis que sur le terrain, on a de gros soucis. Là, par exemple, pour la pré-rentrée, on a un certain nombre de...
Vous y étiez ce matin?
Moi, j'y étais ce matin dans mon établissement. J'ai eu des remontées de d'autres collègues, d'autres établissements. Par exemple, le ministre a dit l'employeur État fournira des masques au personnel. Dans beaucoup d'établissements, il n'y avait pas de masques ce matin. Donc les collègues sont arrivés, y compris alors à Paris par exemple, on est en zone rouge, on a l'habitude de porter le masque. C'est pas le cas forcément dans d'autres villes de France. Les collègues sont arrivés sans masque alors que pensaient avoir un masque à l'entrée, ça n'a pas été le cas. Ça peut sembler du détail, mais finalement c'est un très mauvais signal qui est donné dès le premier jour à l'ensemble des enseignants. Et ce sur quoi nous pourrions être d'accord, c'est que les enseignants dans le second degré veulent reprendre le travail, ils veulent retrouver leurs élèves, ils ont tout à fait conscience des enjeux de la reprise pour les élèves après tous ces mois de confinement et des inégalités d'apprentissage des élèves. Donc ils ont envie de retourner en classe avec leurs élèves. Mais on a tout un tas de questions qui se posent, d'une part d'un point de vue sanitaire. Alors il y a cette question des masques, il y a cette question que vous venez d'évoquer sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un cas. Nous, on a dans certains lycées, avec la réforme du lycée, des classes de première et de terminale avec 39 collègues qui interviennent sur un même groupe classe. Si jamais ces collègues sont atteints par des mesures de cas contact, vous videz l'établissement quasiment du jour au lendemain. Donc on a un peu de mal à se projeter dans l'avenir. Donc pour le moment, les collègues nous disent, nous on veut un minimum de sécurité sanitaire, on veut des masques, on veut des mesures claires, y compris pour la cantine, et on veut pouvoir faire notre métier. Et puis après, on va bien voir, au fur et à mesure, on va avancer en marchant.
Vous parlez, on l'entend, avec un masque. Est-ce qu'il va y avoir une difficulté à parler avec un masque plusieurs heures dans la journée et pas mal d'heures dans la semaine et à vous faire entendre par les élèves? C'est une question naïve, mais enfin, elle est précise et puis elle va vous concerner
elle est pas,
beaucoup.
Oui, c'est-à-dire que moi, je voudrais pas me plaindre de porter un masque quand je sais que nos collègues, par exemple, dans les hôpitaux, en portent toute la journée sans se plaindre. Hein. Mais là, en ce moment, moi, je suis en phase d'exercice. C'est-à-dire je me demande comment est-ce que la voix va porter. C'est une question qu'on se pose tous. On aura la réponse à partir de demain, après-demain, quand on va commencer à recevoir nos élèves. Comment est-ce qu'on va tenir 4 heures, parce qu'on n'est pas censé abandonner le masque entre les heures de cours? On n'a aucun lieu de répit dans les établissements scolaires, ni nous, ni les élèves, entre l'entrée dans l'établissement et l'heure du déjeuner à la cantine. Donc on est censé garder notre masque quasiment tout le temps, sauf peut-être pour les pauses sanitaires. Donc on se demande comment les élèves vont réagir, comment on va faire. Là encore, la situation est totalement inédite, donc on ne sait pas. On se prépare chacun à sa façon, puisque de toute façon aussi, on n'a pas de consigne de préparation. Voilà, donc on est en phase d'entraînement, réponse à partir de d'ici la fin de la semaine.
Édouard Geffray, a-t-on bien mesuré ce que ça représente pour des élèves du secondaire? On va parler plus du secondaire aujourd'hui. La semaine dernière, on a beaucoup parlé du primaire. De rester toute une journée, sachant qu'on sort de chez soi avec un masque, on reste toute la journée assis avec son masque, y compris à la cantine, sauf le court moment où on mange. Ça fait pas un petit peu long, ça, pour des enfants?
Écoutez, je crois que la question, c'est peut-être de savoir quelle est la bonne mesure en termes de proportionnalité pour protéger les élèves et les professeurs. Et après, effectivement, il y a un effort d'adaptation. Quand on sort dans la rue, on met le masque. Quand on est effectivement un enfant, enfin un jeune,
un adolescent. J'ai dit enfant, ils aiment pas trop ça. J'ai tendance à dire enfant.
Disais jeune. Un adolescent dans sa classe mettra un masque. Moi, je crois quand même beaucoup d'abord à la capacité d'adaptation. C'est des choses qui ont été déjà largement pratiquées. Vous dire que c'est confortable et agréable, je connais personne qui vous dira ça. Personne. Dire que pour autant il faudrait ne pas le faire et prendre des mesures plus souples, c'est pas aujourd'hui ce qui est recommandé par les autorités sanitaires, et nous nous fions aux autorités sanitaires dont c'est le métier.
Bon, et c'est le moment ou jamais de porter un appareil dentaire. Petite parenthèse pour les adolescents concernés. Plus sérieusement, concernant la gratuité du masque, c'est l'ancien président François Hollande qui l'a dit. On fournit des tablettes dans certains départements, des ordinateurs. Pourquoi ne pas demander aux collectivités locales, et le ministère pourrait le faire, de fournir des masques à tous dans la continuité du principe de l'école gratuite?
Clairement, la décision qui a été prise, c'est que ça fait partie aujourd'hui de l'équipement quotidien. Je vous rappelle que par ailleurs, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises, comme l'augmentation de l'allocation d'entrée scolaire, une augmentation non négligeable, comme vous le savez.
Une centaine d'euros.
Une centaine d'euros. Donc, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises, mais effectivement, sur la gratuité en tant que telle, ça n'a pas été considéré comme la solution idoine compte tenu des autres dispositifs qui étaient en place. Et par ailleurs, si un élève, un matin, oublie son masque et arrive au lycée ou au collège sans masque, évidemment, il en sera fourni un pour qu'il puisse assister.
Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas rentrer chez soi dans ce cas-là. Valérie Sipahi-Malani, vous souhaitez répondre.
La question du masque, en fait, elle est emblématique du modèle de société qu'on veut construire. Si on considère qu'on doit protéger et que c'est une question sanitaire importante, à ce moment-là, on doit fournir un masque gratuitement aux élèves. Et entendre le Premier ministre dire que certaines familles ont les moyens de se payer ce masque, nous disons, au SNES et à la FSU, certaines familles ont les moyens de payer peut-être davantage d'impôts. Et à partir de la richesse publique, on peut offrir un masque gratuitement à tous les enfants. On va à l'école, la nation offre un masque pour protéger les élèves dans alors qu'ils sont obligés d'être là pour leurs apprentissages. Donc ça, pour nous, cette question du masque gratuit, elle est symbolique de tout un tas d'autres questions que peut-être Marie Durubella abordera par la suite. Hein. Elle est symbolique aussi de la manière dont on pratique la démocratisation scolaire.
C'est à Philippe Mérieux aussi que je voulais donner la parole à ce moment-là, parce que dans les échanges que nous avons eus avant cette émission, vous m'avez dit que on parlait, à votre goût, trop peu des élèves en cette rentrée.
Oui, on parle peu des élèves. Alors là, vous parlez du secondaire, et je pense qu'effectivement, pour les élèves du secondaire, le port du masque va être compliqué, difficile, c'est une épreuve. C'est aussi une épreuve peut-être encore beaucoup plus importante pour les élèves du primaire qui ne porteront pas de masque au-dessous de 11 ans, mais qui vont se retrouver dans des situations très particulières avec des enseignants masqués eux-mêmes et dont on sous-estime, je crois, tout ce qui s'est passé pour eux sur le plan psychologique. Vous savez, le pédagogue que je suis sait bien que l'apprentissage, c'est une forme de déstabilisation, de représentation ancienne. On essaye d'accéder à des savoirs nouveaux, mais pour que cette déstabilisation cognitive, intellectuelle se fasse, il faut créer une forme de stabilité psychologique, de sérénité psychologique. Et pour moi, un des enjeux de cette rentrée, c'est de dépasser la contradiction entre les exigences sanitaires et les exigences sociales. Bien sûr, il faudrait la gratuité du masque, mais au-delà de ça, dépasser la contradiction aussi avec les exigences pédagogiques quand même, et que, avec un masque gratuit si possible, dans des conditions sanitaires optimales, on puisse parler cette crise sanitaire un petit peu avec des élèves qui parfois n'ont pas été en classe depuis 6 mois, peut-être des ateliers philo ici ou là, peut-être à travers des œuvres littéraires ou à travers une approche symbolique, mais parler de cela, ne pas laisser les élèves seuls face à une rentrée qui est quand même, me semble-t-il, extrêmement anxiogène pour les plus petits, évidemment, mais pour nos élèves de collège et de lycée, je le crois également.
Est-ce que ça fait partie, Édouard Geffray, des points qui ont été soulevés dans les réunions ministérielles? Il y a tout le protocole sanitaire, mais il y a peut-être aussi un protocole éducatif. Au-delà de la nécessaire, parfois, remise à niveau, et c'est un sujet dont on parlera justement la semaine prochaine, un échange de paroles sur toute cette période qui vient de se passer. On sait que dans le secondaire, des élèves, et particulièrement au lycée, ne sont pas retournés, en effet, en classe depuis le mois de mars.
Alors oui, il est évident que c'est une dimension qui est évidemment importante. Je rappelle également qu'on a les psychologues d'éducation nationale qui seront mobilisés, ainsi que les personnels de santé, les médecins scolaires, les infirmiers scolaires jouent un rôle essentiel en la matière.
Médecins scolaires dont on sait qu'ils sont notoirement trop peu nombreux en France.
Et les psychologues qui suivent plus de 1000 élèves chacun.
Non mais on peut se dire plein de choses.
Je me suis permis ce chiffre parce que c'est connu.
Juste qu'on a des médecins scolaires, des infirmiers scolaires, des psychologues d'éducation nationale, outre évidemment tous les professeurs qui sont là pour les élèves et qui seront évidemment particulièrement mobilisés en cette rentrée. C'est des choses sur lesquelles on a un retour d'expérience évidemment, puisque au mois de mai-juin, quand les élèves ont repris, il y a déjà eu ça. Et dans les repères mis à disposition des professeurs au mois de mai-juin, cette dimension-là avait été évidemment soulignée et partagée. Donc oui, elle a vocation à continuer. Il faut aussi se méfier. C'est pas forcément une question de séquence, quoi. C'est pas, je vais commencer par discuter 2 heures et puis ce sera comme si dans l'été. Tout le monde sait bien que c'est chose qui va se faire à long terme. Il y aura peut-être des élèves qui vont en parler dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et donc, il y a cette forme de disponibilité institutionnelle pour que ces élèves-là trouvent des interlocuteurs et qu'on puisse évidemment en parler avec eux et puis les aider simplement à passer le cap et à intégrer à la fois ces comportements de précaution qui font désormais partie de notre vie quotidienne et en même temps à dépasser ça et à conserver la sociabilité qui doit être la leur.
Marie Durubella, on a vu dans cette période les inégalités apparaître sous un nouveau jour. On les connaissait, mais quelque part, elles ont été éclairées d'une lumière extrêmement crue. Inégalités devant l'école à distance, inégalités devant le retour à l'école pour tout un tas de raisons, de choix parentaux, de communes où on habitait, de possibilités des écoles pour le faire. Quelle réflexion cela suscite-t-il chez vous ?
On n'a pas découvert les inégalités.
C'est ce que je disais, elles ont été éclairées d'une lumière plus crue.
Il est probable qu'elles se seront accentuées, mais ça, tant qu'on ne le sait pas, faut faire une enquête et on le saura, donc ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ce qui est intéressant, qu'on a sans doute découvert grâce au confinement, c'est justement le besoin d'individualiser. On sait qu'il y a des enseignants qui ont téléphoné à des élèves et qui ont découvert les conditions de vie. On a découvert lorsqu'un élève était... Finalement, c'était autre chose qu'un élève en classe. C'était une personne qui habitait dans tel endroit, qui avait tel parent, qui avait tel nombre de frères et sœurs qui prenaient l'ordi alors qu'il était censé travailler. Donc on aura découvert finalement les enfants, dans beaucoup de cas, je ne dis pas qu'ils étaient ignorés, mais ils sont un peu sortis de leur rôle d'élève. Et ça pourrait aider peut-être pour tendre vers une réduction des inégalités, puisqu'on sait que la plus grande cause des inégalités, c'est de traiter pareil des élèves qui sont inégaux. Donc ça peut-être faciliter, bien qu'il y ait évidemment beaucoup de choses à faire dont on parlera sans doute, pour les réduire significativement.
Sur ce point, celui que vous venez de développer, j'ai relevé une phrase qui m'a un peu fait sourire. C'est dans Le Monde, publié aujourd'hui à la date de demain. Vous répondez à Mattea Battaglia et vous dites que les professeurs ont peut-être été plus créatifs et mobilisés pendant le confinement parce qu'ils n'avaient pas de directive précise, directive qui aurait peut-être été contestée. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Il y a longtemps qu'on constate que sur le terrain, il y a plein d'initiatives. Ça, c'est vraiment une banalité. J'ai moi-même du temps où Jacques Lang était ministre, on m'avait demandé de créer une institution qui s'appelait le PIREF pour essayer de capitaliser ces initiatives. Heureusement, c'est-à-dire l'enseignement est à la fois centralisé et profondément décentralisé. Donc on sait que sur le terrain, il y a plein d'initiatives et que parfois on reçoit mal des directives pilotées d'en haut, difficilement faire autrement, mais qui ne s'adaptent pas justement. Et ça, on l'a ressenti pendant le confinement. On a ressenti aussi que certaines règles nationales élaborées à Paris ne convenaient peut-être pas à la situation de la Corrèze ou je ne sais où. Donc je pense qu'effectivement, cette situation tout à fait inédite a donné l'occasion d'une certaine, à un peu lâcher la bride sur le coup à un certain nombre d'enseignants qui ont pu déployer des initiatives. Et ça peut être aussi un aspect positif, si tant est qu'on ne revienne pas dessus au moment de la grande remise en ordre.
Remise en ordre, je ne sais pas qu'en penser, mais peut-être vous avez une idée, Valérie Sipahi-Malani, sur à la fois ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui va se passer maintenant pour les enseignants.
Ouais, je dirais que peut-être la situation est différente dans le premier et du second degré, où il y a peut-être plus de pression actuellement pédagogique sur le premier degré que sur le second degré. En collège, on a beaucoup de dispositifs qui prennent sur le temps d'enseignement. Ces dispositifs, de fait, se sont arrêtés pendant le confinement, le quart d'heure de lecture, etc. Et donc, les collègues ont pu peut-être retrouver une autre manière de faire les choses. Mais encore, je suis assez... Enfin, sur la créativité, c'est vrai, on fait un métier créatif ou un métier où on s'adapte en permanence à nos élèves, à la situation de classe. Et en même temps, on est extrêmement bordé par les programmes et par les modalités d'évaluation qui pilotent un peu le système. Alors, effectivement, au printemps dernier, l'évaluation a posé d'autres soucis que d'habitude, puisque on est passé en mode d'évaluation continue. On va peut-être pas rouvrir ce dossier douloureux
sur les examens,
sur les examens et le bac. Ce qu'on constate actuellement là, On a des élèves dont on ne sait pas du tout comment ils vont réagir à la reprise en groupe classe, puisque en mai-juin, quand ils ont repris, ils étaient en tout petit groupe. Ces élèves, pour le moment, on est plutôt dans une préparation mécanique de la rentrée. C'est comment on va organiser les groupes classe, comment est-ce qu'on va faire pour que ça ne se croise pas trop, qu'est-ce qu'on va faire pour discuter du masque. On n'est pas vraiment dans l'accueil psychologique qui serait peut-être souhaitable sur ce que les uns et les autres ont vécu pendant le confinement, parce que c'est pas notre métier de prof au premier chef. On fait de la psychologie avec nos élèves, mais se préoccuper de leur situation personnelle de cette manière-là, c'est pas notre formation première. Et puis en lycée, on est complètement débordé par la fin de la mise en place de la réforme qui a posé des tas de problèmes d'emploi du temps en première et en terminale, et qui, dans un contexte avec des classes extrêmement chargées, puisqu'on a plus d'élèves et moins de postes, moins de profs donc, dans ce contexte extrêmement chargé de la rentrée sanitaire, pose de redoutables problèmes d'organisation qui finalement balayent un tout petit peu le reste.
Et aussi pour que les élèves ne se croisent pas, puisque ça fait partie du protocole, le fait, vous avez dit, pour
ça,
que les élèves
impossible.
Ne se croisent
c'est pas. C'est tout trop. Juste pas possible. Et donc on est en train d'essayer de mettre en place des systèmes qui sont les moins compliqués possibles. On voit qu'on n'y arrive pas, et ça peut être anxiogène. Donc il faut qu'on fasse le bilan dans les jours qui viennent de la manière dont on peut gérer ça dans les lycées.
Qu'attendez-vous du Grenelle des enseignants annoncé par le ministre de l'Éducation nationale hier?
Ça fait quand même 2 ans que nous discutons de manière sporadique avec le ministre de la revalorisation des métiers et en particulier des salaires à l'Éducation nationale. Nous ne voyons pas le sens d'un Grenelle. Tout est déjà sur la table depuis des mois maintenant. Qu'a besoin de discuter davantage?
Édouard Geffray, du nouveau sur la table peut-être?
Bah écoutez, c'est rare d'entendre une relation syndicale qui dit qu'il y a besoin de discuter, puisque en général, c'est l'une des caractéristiques de notre relation.
Mais peut-être faut-il faire avancer, mais je crois que c'est le sens de la question. Est-ce qu'on va avancer?
Non, mais les choses ont toujours été assez claires de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, effectivement, de chantiers qui ont été lancés. Beaucoup ont abouti, qu'on soit d'accord ou pas, mais beaucoup ont abouti. À la fois des réformes pédagogiques, on a parlé de celle-ci, mais aussi sur la formation des enseignants, sur la formation continue, puisque c'est pour la première fois qu'on s'est doté d'un schéma directeur de la formation continue, qui intègre notamment le développement personnel et professionnel de ceux qui ont envie d'évoluer dans leur carrière. Donc ça, ce sont des chantiers qui ont déjà été en partie traités. Et puis il y a d'autres chantiers sur lesquels il y a eu des échanges et qui effectivement sont appelés à connaître un point d'aboutissement dans le cadre de discussions que le ministre a annoncé hier et qui s'appelle le Grenelle des professeurs.
Est-ce que le Covid a été un accélérateur pour cette réflexion et cette revalorisation des enseignants?
Alors le ministre a toujours été constant là-dessus et quelles que soient les opinions des uns et des autres, je pense que tout le monde peut le dire, il a toujours dit qu'il fallait revaloriser le métier, l'image et les conditions d'exercice. Et ça, je veux dire, c'est constant depuis le début de sa présence. Donc, non, c'est pas de ce point de vue-là que le Covid n'a pas changé le point de vue. En revanche, je pense que le Covid a fait prendre conscience à tout le monde qu'on avait 1 million de professeurs qui s'étaient adaptés, qui n'avaient pas forcément un métier évident, qui avaient pris des initiatives. Et pardon de le dire, mais pas tellement sur une directive ou injonction nationale. Il y en a eu finalement, et même très très peu en fait. Il y a eu de la mise à disposition. On a mis à disposition des outils dont les professeurs se sont emparés ou ils en ont pris d'autres. Mais la conclusion de tout ça, c'est quand même que tout le monde, a redécouvert ou a été reconfirmé dans l'idée qu'il y a une figure essentielle dans la société, dans la République, qui s'appelle le professeur, et qu'on lui doit beaucoup. Donc tant mieux si ça crée un climat, évidemment, autour de ça favorable, mais sur le fond, l'idée est bien la même, c'est un métier formidable à revaloriser.
Valérie Sipahi-Malani, vous vous sentez
Il y avait 500 millions sur la table l'année dernière. Maintenant, on est à 350-400 millions cette année. On nous dit qu'il faudra être formé pendant les vacances scolaires, etc. Bon, vous savez bien, Monsieur Geffray, que le SNES-FSU est toujours partant pour discuter. Mais là, sur cette question de la revalorisation, on discutera, mais sans trop y croire.
Bien, c'est un sujet que nous suivrons, en tout cas dans l'émission et sur France Culture. On va passer à d'autres problèmes de l'école, assez importants aussi ceux-là, des problèmes ou des questions dans notre deuxième partie.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil.
Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Michel grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
Respire de Gaël Faye. On va trouver des endroits pour respirer au sens propre comme au figuré, sans ou avec le masque. J'ajoute que le film adapté du roman de Gaël Faye, Petit Pays, vient de sortir au cinéma et son album sortira en novembre. Alors ça m'a fait sourire, il va s'appeler Lundi Méchant. Et aujourd'hui, c'est lundi, c'est Être et Savoir. Et on aborde la deuxième question et une grande question pour cette émission. Si les divisions qui déchirent notre société naissait aussi dans les espoirs perdus de l'égalité, dans la promesse non tenue d'égalité scolaire, d'égalité des chances. Marie Durubella, le titre de votre livre, c'est « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» Ce livre pose une immense question, celle-là, celle que je viens de formuler en quelque sorte. Elle n'est pourtant pas si nouvelle.
Non, elle n'est pas si nouvelle, mais on découvre, et aussi dans d'autres pays d'ailleurs, que finalement, la massification, qu'on juge toujours en moyenne, on dit en moyenne, on a fait X %, c'est-à-dire on raisonne surtout d'ailleurs à partir d'indicateurs quantitatifs, donc en moyenne, voilà. Mais on a regardé ce que ça avait fait au dernier de la classe, parce qu'on regarde toujours l'élite dans notre pays. L'indicateur privilégié pour évaluer la démocratisation, c'est de regarder les enfants d'ouvriers à l'ENA, les enfants d'ouvriers à Polytechnique, etc. Mais finalement, les autres. Et les derniers de la classe, ceux qui vont sortir sans diplôme, qui sont certes de moins en moins nombreux, mais ils existent, et puis il y a toujours des derniers de la classe, par définition, et bien ceux-là, on commence à avoir pas mal d'études sur leurs valeurs, sur leur comportement politique, qui interrogent, parce qu'on se dit, finalement, dans quelle mesure l'école, et pas elle seule, évidemment, l'école est-elle responsable de ces attitudes qui nous paraissent en général préoccupantes, qui peuvent être l'autoritarisme, le déni de la science et toutes ces attitudes qu'on a observées aussi pendant cette période récente.
Donc, on peut parler des vaccins, éventuellement des masques,
des fake news, etc.
Et du complotisme. La théorie, et c'est pas la première fois, je lis ça sous votre plume ou sous celle de François Dubé, c'est que pour qu'il y ait des bons élèves, il faut qu'il y ait des mauvais élèves. Pour qu'il y ait des gagnants et une élite, il faut qu'il y ait des perdants. Ces perdants, on ne s'en occupe pas, on n'en parle pas assez, c'est un impensé de la réflexion sur l'école, en tout cas beaucoup trop, même si ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici aussi. Ma question, c'est: est-ce que vous arrivez à vous penser, à travers ces livres, à vous adresser à ces catégories-là, à ces gens finalement concernés, qui pourraient avoir envie de changer l'école, qui les fait perdre, eux, leurs enfants, des gens qui sont aujourd'hui, qui font les frais de cet élitisme, de cette compétition?
Est-ce qu'on arrive à leur parler?
Oui, à leur parler, à faire entendre de ça.
Là, c'est vrai qu'il ne faut pas...
par d'autres gens que les élites, justement.
Oui, on ne va pas se voiler la face. Notre livre ne sera pas un best-seller vendu dans tous les relais de France et de Navarre. Donc, on s'adresse plutôt aux gens qui ont la responsabilité soit de faire tourner le système, enfin, au jour le jour, les enseignants, les parents, évidemment, et puis les politiques. Mais déjà, il me semble que si les politiques, qui sont parfois à un niveau assez élevé, enfin je veux dire assez loin finalement de la réalité des classes, se rendaient compte à quel point les élèves peuvent être détruits, hein, par le fait d'être toujours le dernier de la classe pendant X années de scolarité, ils ne regarderaient peut-être pas uniquement ces indicateurs chiffrés qu'on compare à Bruxelles, par exemple, en disant, regardez, nous on a 80%, les autres... Enfin, on a l'impression à l'heure actuelle que souvent la politique de Grenelle, elle se fait donc par comparaison d'indicateurs de benchmark, comme on dit maintenant.
Donc la rue de Grenelle, le ministère de l'Éducation.
Oui, c'est vraiment des benchmarks européens, ils sont publiés régulièrement et on voit si la France est bien classée. Mais au niveau intrinsèque, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Et on se dit peut-être que l'éducation devrait être pensée plus en termes absolus et pas toujours relatifs par rapport aux autres, ou bien les uns par rapport aux autres. Mais qu'est-ce qu'on veut faire finalement avec les élèves? Et donc, on espère susciter une réflexion. On n'est pas naïf au point de penser qu'on va toucher les gens qui sortent de l'école en sachant à peine lire, parce qu'il y en a. Et ça, c'est un vrai scandale.
Philippe Mérieux, votre titre est étrangement proche de celui du livre de François Dubé et Marie Durubella. Le vôtre, c'est « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». Alors, est-ce que pour vous, ces classements qui classent les systèmes éducatifs, hein, on connaît PISA, on en connaît bien d'autres, surtout quand on se spécialise dans le domaine comme moi, miment un peu les classements qu'on fait des élèves dans les classes et finalement masquent tout un tas de réalités.
Oui, sans aucun doute, hein, on pourrait rappeler, et ce serait ici un bel hommage à lui faire, rappeler Bernard Stiegler et la manière dont Bernard Stiegler dénoncer la réduction de l'humain à l'algorithme et dénoncer la réduction des objectifs éducatifs à des objectifs standardisés, chiffrés, qui ne rendent pas compte de la réalité du processus éducatif. Je voudrais dire, dans le prolongement de ça, mon accord complet avec l'analyse de Marie Duru, bien sûr, le traitement que nous réservons à ceux qui ne réussissent pas dans le système scolaire est indigne. D'une certaine manière, nos démocraties peuvent légitimer, et ça mériterait une longue discussion, une hiérarchisation des réussites scolaires. Mais la question que je me pose, moi, de mon côté, c'est est-ce qu'elles peuvent légitimer une hiérarchisation de l'accès à la citoyenneté? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui ne va pas réussir aussi bien que notre, qu'on va tenter, comme le proposent Marie Duru et François Dubé, d'accompagner socialement pour qu'il ne vive pas cet échec comme une humiliation absolue. Est-ce qu'on aura quand même pu, à l'école, faire de lui quelqu'un qui sera un peu plus lucide, un peu plus capable de comprendre ce que c'est que le commun et pas simplement les singularités, un peu plus capable d'accéder à un processus démocratique, à un esprit critique, à une pensée critique, pour ne pas se faire avoir par les slogans populistes ou par les théories du complot que vous évoquiez tout à l'heure. Et cette question-là me préoccupe beaucoup, elle tient à la question de la démocratie à la fois comme démocratisation, mais aussi à la démocratie comme accès par l'école à la pratique de la démocratie, et cette fois-ci par toutes et par tous. On ne peut pas accepter qu'il y ait une partie de la population qui n'ait pas accès et qui n'ait pas été formée aux pratiques démocratiques. Même si on accepte que tout le monde, bien évidemment, ne va pas rentrer à Polytechnique.
Alors, c'est une question d'éducation, de pratique. Ça veut dire que ça pourrait s'illustrer, pour bien comprendre vos propos, dans les élections des délégués, dans la représentation des élèves dans des instances scolaires, dans des ateliers philo, Philippe Mérieux ?
Non, ça s'exprime d'abord dans le rapport au savoir, dans le rapport à la connaissance. Ça s'exprime dans la capacité qu'ont les enseignants, et j'entends bien ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, ce ne sont pas des psychologues, les enseignants sont des gens dont le métier est de transmettre des savoirs, mais de transmettre des savoirs en désenquistant les certitudes dogmatiques pour transformer le goût ou le souci d'avoir tout de suite la vérité, une vérité qui comble toutes les attentes, en une recherche qui est une recherche lente, patiente et compliquée d'une vérité qui est à construire et qui est à construire collectivement. Aujourd'hui, nos enfants, nos adolescents, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sont des gens qui veulent très vite accéder à une vérité simplificatrice. Souvent, c'est celle qui apparaît en tête du moteur de recherche, c'est celle qui apparaît en tête sur les réseaux sociaux. Substituer à cela et à cette plénitude d'une vérité immédiate, une vérité qui se construit lentement dans la recherche, substituer le goût de la recherche au goût de la certitude, c'est d'abord un travail de rapport au savoir. Alors après, il y a toutes les pratiques démocratiques que vous évoquez, les vies de classe, les conseils de classe, les assemblées générales d'élèves, qui sont importantes, mais qui ne peuvent pas se substituer à un changement du rapport au savoir, et d'un rapport au savoir qui va vers l'exigence, et toujours plus d'exigence, de précision, de justesse et de vérité. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce que tout enseignant peut faire pour permettre à tous les élèves d'accéder à un peu plus de posture démocratique.
Et c'est ce que vous défendez dans votre livre, et mea culpa, j'ai été trop vite dans mon questionnement, parce que il faut se demander si cette démarche d'éducation en continu peut s'opérer dans chacun des cours, cette réflexivité, elle peut s'effectuer quand on note, quand on classe, quand on oriente. Marie Durubella, c'est la limite que vous pointez.
Effectivement, je pense que l'école est rongée par la compétition, par le fait que c'est un enjeu, que les diplômes sont un enjeu. Les élèves savent très bien que pour avoir un métier, et c'est vrai particulièrement dans notre pays, il faut tel ou tel diplôme. Les parents le savent bien, ils sont le coach de leur enfant. Donc tout ce principe de l'égalité des chances, c'est la compétition. C'est la compétition, et ça c'est le principe qui domine, enfin, par rapport à un autre principe qui serait l'égalité des résultats, l'égalité de tous. On a ce modèle de l'égalité des chances qui envahit la planète, si je puis dire, enfin notamment les pays comparables aux nôtres, et qui, je crois, ronge vraiment l'école, parce qu'il fait de la scolarité une compétition, non sans raison, puisqu'on sait que notre pays est un de ceux où les plus diplômés ont la prime la plus élevée au moment de l'insertion. Les hauts diplômes payent particulièrement en France, alors qu'à l'inverse, le fait de ne pas avoir de diplôme pénalise particulièrement, par rapport aux pays de l'OCDE, les élèves sur le marché du travail. Donc les parents manifestent une partialité légitime, comme le disent certains philosophes, ils vont pousser leur enfant, et ça ronge le système, parce que ça fait de la scolarité une course. Et pour les enseignants, c'est pareil. Ils vont être obligés de les classer, ces élèves. Ils ne peuvent pas se dire simplement « j'éduque tout le monde de manière uniforme pour qu'ils puissent participer ensuite à un jeu démocratique ».
Et on le rappelle, on doit le rappeler, la France est un pays plutôt très inégalitaire en termes de reproduction des inégalités sociales qui préexistent à la scolarisation des enfants. Elles sont pas spécialement plus fortes en France, mais elles sont très bien reproduites par le système scolaire. Valérie Sipahi-Malani, ça doit vous inspirer une réflexion sur à la fois ce que l'école peut donner à penser, ça c'est de l'éducation, et ce qu'elle ne peut pas faire en raison de toutes ses autres missions.
Oui, en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que la compétition traverse l'école et serait pesante à tout moment à l'école. Globalement, quand est-ce qu'on classe les élèves dans une classe? C'est au moment de Parcoursup. Jusqu'à avant Parcoursup, la compétition à l'intérieur de la classe, moi je ne la vois pas tant que ça.
Et dans l'orientation,
la hiérarchie des filières, elle n'existe pas.
Mais je ne dis pas ça. Je dis simplement que la compétition entre élèves et la hiérarchie ensuite sociale qui s'institue entre les élèves et entre les filières, c'est différent. Mais qu'au sein des classes, moi je ne vois pas tant que ça la compétition, et je trouve que tout le grand mouvement sur l'évaluation par notes, sur la question des compétences qui traverse le système éducatif actuellement, c'est un mouvement qui vise justement à cesser ces classements au sein des établissements scolaires. Et d'ailleurs au collège, on n'est plus censé classer les élèves. Après, ce qui se passe au moment de l'orientation, c'est beaucoup plus ça n'est pas vécu en termes de compétition, donc peut-être c'est un vocable sociologique, une manière de penser les choses, mais moi je ne ressens pas cette compétition entre les élèves à l'intérieur des établissements scolaires. Ensuite, pour aller dans le sens de Philippe Mérieux, ce qui nous semble, c'est que l'école, c'est le premier lieu de vie en société des élèves. Pour que les élèves aient une bonne image de la société, il faut qu'ils aient une bonne image de l'école. Ça veut dire que nous sommes tous responsables, nous qui nous occupons de l'école, les professeurs, le ministère, tout le monde. On est responsable d'un bon accueil des élèves à l'école, mais aussi d'une bonne conception des savoirs et des pratiques à l'école. Et là, on a un gros problème en ce moment, qui est entre autres le problème des programmes et de l'évaluation des programmes. Ce sont des programmes qui sont pléthoriques, qui ne sont pas conçus entre nous, ce qu'on appelle entre nous à la FSU, la culture commune. C'est-à-dire que quand vous travaillez un point en français, vous allez retrouver ce point en anglais, puis vous allez peut-être le retravailler d'une autre manière en sciences de la vie et de la terre ou en physique, ce qui permet aux élèves qui ne sont pas complètement à l'aise avec les savoirs de construire quelque chose de cohérent. Or, les derniers programmes que nous avons eus par la réforme du collège comme par la réforme du lycée sont des programmes qui ont été faits à toute vitesse, qui ne sont pas cohérents horizontalement pour les élèves. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, quand on dit qu'on voudrait que justement les élèves puissent faire société et qu'on nous donne une réforme du collège avec des programmes incohérents, une réforme du lycée où là, effectivement, il peut y avoir de la compétition pour avoir accès à telle ou telle spécialité en première et en terminale, là, de notre point de vue, on va au rebours de ce qu'on devrait construire en termes sociétaux.
Cette cohérence dont vous parlez, cette cohérence horizontale, on sait qu'elle est difficile à faire et qu'elle est plus facile à faire pour des enfants bien accompagnés chez eux par des parents proches de la culture scolaire que pour des enfants chez qui il y a peu de livres, qui vont moins pouvoir en discuter avec des membres de leur entourage.
Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire dans les collèges et dans les lycées. Et pour avoir le temps de le faire, il faut que les moyens soient là en termes, par exemple, de programmes pas chronophages, de programmes bien conçus, en termes de services des enseignants, en termes d'emploi du temps des élèves. Or, c'est pas du tout de ce cadre-là dans lequel ont été conçues les dernières réformes.
Édouard Geffray, sur ces réformes, ces programmes ou un autre point, puisque vous vouliez intervenir.
Ouais, sur deux petites choses, si vous voulez bien. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un premier enjeu pour l'école qui est d'aider nos jeunes à devenir citoyens libres et éclairés. Et ça implique de forger l'esprit critique et de développer un certain rapport à la vérité, ce qu'est, je rejoins ce qui a été dit. La deuxième chose, c'est donner les moyens à chacun de développer ses potentialités. Quelle qu'elle soit. Et c'est par conséquent aussi ouvrir les chemins des réussites. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur deux choses, puisqu'on parle des réformes, donc autant en parler jusqu'au bout. La première chose, c'est l'orientation. L'orientation qui est un vrai sujet, puisqu'on sait bien que il y a un certain nombre de déterminants familiaux, géographiques aussi. Hein. Beaucoup de gens choisissent, par exemple, dans la voie pro, le diplôme qui correspond à l'offre qui est immédiatement proche de chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on développe la politique d'internat pour que ces jeunes-là, ils aient pas peur d'aller plus loin, faire quelque chose qui leur correspond. Quand on prend le lycée général et technologique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ouvre les spécialités pour éviter des schémas sociaux qui étaient très présents dans le choix des anciennes filières. Et on a aujourd'hui 50% des jeunes qui choisissent des spécialités qui ne correspondent pas, qui ne reproduisent pas les anciennes filières S, ES et L. Donc, si on veut effectivement lutter contre les inégalités, il faut être capable d'évaser le champ des possibles, de ne pas hiérarchiser, c'est-à-dire d'accepter que la réussite, elle prend des formes diverses, et c'est pas parce que je suis allé à bac plus ci ou bac plus ça que je suis meilleur que le voisin. Et il faut quand même, de ce point de vue-là, rappeler une chose, parce que moi, je fais partie d'un ensemble de gens qui croient à la promesse républicaine, mais qui ont une fâcheuse tendance à l'optimisme, hein. C'est que justement, quand on regarde les données qualitatives et pas seulement les moyennes, parce qu'effectivement, une moyenne ne veut pas dire grand-chose, on s'aperçoit qu'on est un des pays de l'OCDE où il y a l'une des plus fortes ambitions, toutes catégories sociales confondues, pour poursuivre des études dans le supérieur. C'est-à-dire qu'on sait donner le goût de la suite.
Parce qu'on sait aussi que le diplôme pèse énormément dans la suite de la carrière et même toute la vie. Ça, c'est ce que les sociologues nous apprennent.
Pas seulement. Je pense aussi qu'on a une école qui sait donner le goût de la suite. Après, à charge pour nous aussi de choisir au bout d'un moment un peu les discours. C'est-à-dire que si on passe son temps à s'auto-flageler en disant on fait pas assez ci, on fait pas assez ça, il faut analyser lucidement les choses. Mais il faut être capable aussi au bout d'un moment de rappeler que la promesse républicaine, celle qui nous fonde, celle qui fait qu'il y a 1 100 000 personnes qui travaillent tous les jours dans l'école. Et pour moi, l'école, ça va de la rue de Grenelle jusqu'à l'école de Montkeyra d'adoption. C'est pas la rue Grenelle versus l'école, c'est pas vrai. Il y a une seule institution scolaire et il y a des gens qui se battent tous les jours pour ça parce qu'ils croient en ça, ils croient à la promesse.
Est-ce qu'il y a assez d'anciens mauvais élèves rue de Grenelle pour parler
Il y en a bien plus que vous ne
soyez
l'imaginer.
Mais je ne sais pas, c'est une question.
Il y en a bien plus que vous ne soyez l'imaginer. Il y a des gens qui viennent d'horizons très différents et je ne sais pas si sans l'école républicaine et sans les concours républicains, je serais en face de vous, Mme Touré.
En tout cas, il y a une continuité, c'est que tous les gouvernements et tous les ministres de l'éducation disent vouloir résoudre cette question des inégalités et qu'elle est toujours bien présente, mais on pourra juger cette politique dans quelques années. Philippe Mérieux voulait également intervenir. Vous êtes au téléphone, donc je ne peux pas savoir sur quel point, Nicolas, vous avez voulu intervenir, mais je vous donne la parole.
Bien sûr que nous voulons des citoyens libres et éclairés, mais que nous voulons aussi, et que c'est important, me semble-t-il, aujourd'hui, des citoyens solidaire et que la formation à la coopération n'est pas anecdotique dans l'école et qu'elle est traitée, je crois, d'une manière beaucoup trop anecdotique aujourd'hui. Moi, je suis très sensible à ce qu'a dit Marie Duruc sur une compétition exacerbée qui commence beaucoup trop tôt et je souhaiterais une pédagogie coopérative dans laquelle chacun réussit avec les autres et non pas contre les autres soit pensée beaucoup plus systématiquement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors j'entends bien qu'il faut hiérarchiser à partir du lycée et que tout le monde ne peut pas aller dans les grandes écoles, mais je pense que l'entraide entre élèves, par exemple, n'est pas suffisamment utilisée. Je pense que le fait d'activer toutes les formes de travaux de groupe, c'est pas suffisamment utilisé systématiquement, et que nous avons un enjeu très très fort pour notre avenir autour de cela. Si le Covid a montré quelque chose, c'est bien aussi que nous sommes solidaires, que nous le voulions ou non. Nous sommes solidaires de fait, et si l'école ne prend pas acte de cette solidarité, ne l'active pas et ne fait pas en sorte que chacun puisse mettre ses compétences au service des autres, puisse pratiquer une pédagogie dans laquelle on apprend de tous et on intériorise l'exigence des autres pour être de plus en plus exigeant avec soi-même, alors je pense qu'on ratera une grande partie des enjeux de l'école de demain, de l'école d'aujourd'hui déjà, et de l'école de demain également.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Philippe Mérieux parlait du fait de collaborer en classe pour apprendre à mieux vivre en société. Mais moi, je vais revenir sur un sujet plus douloureux, celui de la défiance. Vous le soulevez largement, Marie Durubella, avec François Dubé dans votre livre. Et il y a une autre défiance qui m'intéresse, c'est celle envers l'école qui conduit certains parents à ne plus fréquenter l'école publique ou l'école sous contrat, aller dans des écoles hors contrat. C'est un chiffre qui monte doucement, mais il y a une continuité. C'est l'école à la maison qui concerne une partie de plus en plus importante de la population aux États-Unis, un pays où la défiance politique se porte bien. Ça existe de manière évidemment beaucoup plus mesurée en France, on le sait, mais ça existe aussi. Et cette tentation qu'on peut avoir, et ça concerne aussi des gens très bien dotés en termes de diplôme et de culture scolaire, de se détourner de cette école qui déçoit.
Et justement, parce que c'est la compétition, c'est des consommateurs. Hein, s'ils ne sont pas satisfaits de ce que leur propose un système, ils vont voir ailleurs. Ça, c'est tout à fait cette logique de compétition. Je base mon enfant le mieux que je peux avec les atouts que j'ai. S'il faut payer, je paye si je peux payer. Donc, c'est exactement, voilà la dérive, justement. Hein, c'est-à-dire que le souci ou la perspective éducative de dire, je mets mon enfant à l'école du quartier, comme ça, il aura le copain dans le quartier, etc. Bon, non, c'est pas ça qui va l'emporter. Ce qui va l'emporter, c'est le classement. Et on fait tout ce qu'il faut, hein, pour le classer au mieux. Donc, ça participe vraiment du même climat. Bien qu'à mon avis, c'est quand même un phénomène qui, au niveau de la France hors Paris, reste quand même assez limité.
Phénomène sur lequel beaucoup d'ouvrages sont publiés. C'est aussi un phénomène d'édition, de même que les enfants à besoins spécifiques, des enfants qui ne sont plus dyslexiques ou dyscalculiques, mais qui vont être en avance ou qui vont être en avance sur certains points et en retard sur d'autres, enfants zèbres ou enfants indigos. J'ai même pas tous les noms qui ont été créés pour cela. Est-ce que ce n'est pas aussi le reflet d'une inquiétude vis-à-vis de l'école à s'occuper de manière suffisamment individualisée des enfants et finalement une forme de refus sur ce collectif qui peut être vu comme fonctionnant à marche forcée.
Et justement, ça, c'est un danger pour la démocratie parce qu'on aimerait que une tranche d'âge d'élèves soit élevée ensemble. Hein. Et là, c'est vraiment du séparatisme, comme on parle du séparatisme religieux. Hein. Il y a des tentations de séparatisme. Mais là encore, je pense qu'elles sont liées à une vision individualiste de l'investissement scolaire, ce qu'on appelle un investissement scolaire, que cherche à maximiser au mieux. Hein. Donc, mais ça participe d'un climat plus général où il y a aussi une individualisation des inégalités. Hein. La société n'est plus structurée par des grands blocs sociaux qui pouvaient se poser, etc. Mais par chacun cherche, il se sent inégal par rapport à telle caractéristique, pas par rapport à telle autre, et essayer de se placer dans une société qui apparaît plus fouillie ou plus complexe, hein, et chacun tire les marrons du feu. On est dans une école où chacun cherche à tirer les marrons du feu, c'est ça le problème.
Changer d'école plutôt que changer l'école, c'était la formule d'une autre spécialiste de l'éducation, Agnès Van Santen. Philippe Mérieux, sur ce séparatisme scolaire, pour reprendre la formule utilisée à l'instant par Marie Durubella.
Oui, il est effectivement extrêmement inquiétant. Il renvoie à une volonté de hiérarchiser qui est complètement à l'inverse de notre tradition républicaine dans ce qu'elle a de plus exigeant. Et moi, je m'inquiète effectivement de cette compétition qui aboutit à la création, même si c'est un phénomène très marginal, d'écoles qui sont des écoles où l'on cultive l'entre-soi. L'école républicaine, et j'ai un faible pour cette expression, même si elle paraît un peu désuète, c'est quand même une école pour tous. C'est une école où l'on rencontre la différence, où l'on accepte la différence.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche
où l'on se construit dans le rapport à la différence et en s'enrichissant les uns les autres? Et c'est cette coopération que je souhaite, moi, qu'on mette en place pédagogiquement, plutôt qu'une compétition systématique dont je ne suis pas sûr, en plus, que sur le plan intellectuel, elle soit plus efficace. Je pense que la coopération bien menée est intellectuellement beaucoup plus efficace que la compétition.
Ça, c'est une version un peu enchanté de ce qui peut se passer à l'école, et on l'espère. Mais est-ce que les parents ne peuvent pas être tentés de chercher plus de bienveillance? Alors, j'ai parlé de besoins spéciaux. Derrière ces demandes, il y a peut-être aussi l'idée qu'on veut que son enfant soit traité le mieux possible, quand on n'a pas l'impression que c'est forcément le cas dans l'école qu'on ne choisit pas, l'école pour tous, celle que vous défendez.
Oui, bien sûr. Moi, je pense que chaque parent veut légitimement que son enfant soit traité le mieux possible, mais il sera traité le mieux possible, non pas s'il est dans l'entre-soi. Je ne pense pas que l'entre-soi soit l'avenir d'un enfant et que ce soit dans l'entre-soi qu'il puisse se développer. Je crois qu'il pourra se développer dans la rencontre de la différence, y compris de gens qui, s'il est en difficulté, pourront l'aider. Je pense que l'entraide entre élèves est beaucoup trop sous-estimée, et beaucoup trop mal et peu utilisée dans le système scolaire. L'entraide entre élèves de niveau différents, de même niveau, etc. Je crois que il faut montrer la richesse de cette école démocratique, de cette école qui fait de la différence, non pas une difficulté dans l'enseignement, et beaucoup d'enseignants, je sais, vivent la différence comme une difficulté, mais il faut la transformer en richesse, et c'est l'enjeu de la formation des enseignants en grande partie, faire en sorte que les différences entre les élèves, même si elles sont importantes, et vous avez évoqué des différences qui peuvent être très lourdes, soient des outils extraordinaire pour que, au lieu d'une sorte de surstimulation individuelle, on arrive à une coopération où chacun réussit à donner le meilleur de lui-même. Mais c'est possible, c'est un vieil idéal qu'on trouve chez Célestin Freinet et chez des tas d'autres. Mais beaucoup d'enseignants vous diront que oui, c'est possible, ça se fait déjà dans des tas d'endroits, et qu'il ne faut pas nous dire que ça n'est pas possible dans l'éducation nationale.
Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas partout. Vous défendez, Philippe Mérieux, le plaisir d'apprendre. Et ce plaisir d'apprendre, on peut l'éprouver en classe. J'espère qu'on l'éprouve souvent en écoutant France Culture, par exemple. Ce plaisir d'apprendre, moi pourtant, dans tout ce que je lis, par exemple chez vous, Marie Durubella, on a l'impression que c'est peut-être la chose la plus oubliée, en tout cas à partir du secondaire, que finalement le plaisir à aborder de nouvelles connaissances, il va se trouver à l'extérieur de l'école, à travers les mille cultures adolescentes, et plus tellement là. Qu'est-ce qui a déserté l'école ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit par exemple la motivation des élèves, leur intérêt décroître au cours du collège. Souvent, les élèves abordent le collège avec une curiosité, voire un certain enthousiasme. Et on voit des indicateurs de motivation et de bien-être décroître jusqu'à la troisième. Et puis, il y a quand même cette concurrence. L'école n'est plus toute seule. Les enfants, sur une année, passent plus, les enfants ou les jeunes, passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à l'école. Donc l'école, elle a maintenant une concurrence. Ils ont l'impression qu'ils apprennent peut-être plus de choses avec leur père et sur leur machine individuelle, là, que dans la salle de classe. Donc, ça, c'est quand même assez nouveau par rapport à l'école républicaine historique, où l'école était vraiment ouvrait des portes. Là, l'école ouvre toujours des portes, mais elle est concurrencée. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être en tenir compte davantage.
Est-ce que vous y réfléchissez au lycée, Valérie Sipahi-Malani? Et vous leviez le doigt aussi.
Non, je levais le doigt parce que le confinement et la privation d'école, finalement, que ça a produit, a permis à certains élèves, enfin à la majorité des élèves avec lesquels on a discuté, de se rendre compte que finalement l'école c'était pas si mal, qu'il y avait du plaisir à aller à l'école, à retrouver les copains, mais aussi à retrouver les profs, que les profs sont des interlocuteurs, sont d'autres adultes que les adultes qu'ils fréquentent dans leur milieu familial. Et donc le confinement a permis aussi de faire un bilan là-dessus. Je vous trouve un tout petit peu négative. dans votre manière d'aborder les choses. On a aussi en face de nous des adolescents. Un adolescent, c'est une personne en construction avec des hauts et des bas. Donc, c'est toujours compliqué de travailler avec les adolescents. Mais je suis sûre qu'ils ont de grands bonheurs à l'école et ils ne sont pas en permanence en train de réfléchir à leur orientation et à la compétition. Et alors, nous plaidons pour la mixité sociale et scolaire, pour le mélange à tous les niveaux, de l'école et pour la découverte de l'altérité. Et donc, c'est sûr que toute classe est hétérogène par définition. Quand vous demandez à un enseignant, il y a toujours des problèmes de différence de niveau dans sa classe. En même temps, de plus en plus se développent les pratiques de travail en groupe. Alors, ça nécessite parfois aussi d'avoir des effectifs et pour le moment, on n'a souvent pas les effectifs qui vont avec. Et ce que l'on constate aussi, c'est que les élèves en ce moment, avec leur messagerie, avec tout un tas avec le numérique et les réseaux sociaux, ont développé un certain nombre de pratiques de coopération qui sont pas nécessairement normées par les profs, et c'est tant mieux, et sur lesquelles on peut s'appuyer aussi dans les classes, et on l'a vu au moment du confinement. Donc les choses, moi je serais plutôt optimiste sur la question du travail en groupe des élèves. Par contre, on a du travail à faire sur la représentation que certains parents peuvent avoir de l'école, sur les choix qui sont faits de refuser la mixité sociale au profit de l'entre-soi.
Et il est encore question de démocratie. Dernière question, Marie Durubella. Finalement, est-ce que l'école peut faire progresser la société, peut permettre à plus de gens d'acquérir de meilleures places dans cette société avec leurs diplômes ou leurs apprentissages, tout simplement, quand cette société elle-même ne progresse pas, ne s'enrichit pas, quand elle ne propose pas davantage de métiers? Est-ce que finalement, le grand problème de l'école, ce n'est pas la crise économique, tout simplement?
Ça, on ne peut pas se défausser sur la crise économique, bien entendu. Mais c'est vrai que l'école fonctionnerait mieux si, mais là justement c'est un peu contre-intuitif, si les diplômes ne servaient à rien. Si on est à l'école justement pour apprendre, pour le plaisir d'apprendre, pour développer un savoir commun à toute une génération. Puis qu'après on organise la formation continue, in situ, hein, dans le monde du travail, je pense qu'elle fonctionnerait mieux. Hein, c'est Antoine Pro qui disait ça, l'historien de l'éducation que vous connaissez. Hein, il disait le jour où l'école ne servira plus à rien, ça changera le climat des classes. Ben, je pense que c'est très profond. Et donc là, l'école, elle est cernée par le fait qu'on compte sur elle pour s'insérer dans une société qui est inégale, effectivement. Donc ça limite ses capacités d'action, ça ne les rend pas nuls pour autant.
Et on se quitte avec cette réflexion que vous pouvez poursuivre, chers auditeurs, à la lecture du livre de Philippe Mérieux ou celui de François Dubé et Marie Durubella. Il y a école et démocratie dans les deux titres qui sont évidemment indiqués à la page d'Être et Savoir sur le site de France Culture. Merci à toute l'équipe de l'émission, Avril Ventura et Philippe Baudouin. Alexandre Dang a assuré la prise de son ce soir. Vous pouvez évidemment écouter l'émission en différé. Lundi prochain, si vous êtes là à 21h, nous parlerons de nouveau de la rentrée et des conflits autour de l'école. Nous parlerons des remises à niveau et du niveau scolaire. Qu'est-ce que c'est avoir le niveau? Demain à 21h, vous retrouvez Aurélie Luneau comme tous les mardis pour De Cause à Effet. Bonne soirée à l'écoute de France Culture.